Ça y est, on y est. L'OGC Nice est virtuellement barragiste, Ligue 1, Ligue 2, à moins de 90 minutes de la fin de ce championnat. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cope et Glon, votre magazine 100% OGC Nice sur les antennes de BFM Nice Côte d'Azur. Le gym s'est incliné hier soir à Auxerre 2-1, scénario que l'on craignait, auquel on pouvait s'attendre, objectivement, vu la saison du gym. Le verdict de la course au maintien est donc reporté à la semaine prochaine. L'OGC Nice qui doit soit faire un meilleur résultat qu'Auxerre, qui se déplace à Lille, on le rappelle, ou gagner contre Metz en espérant un faux pas, nul ou défaite du Havre à Lorient. C'est loin d'être fini quand même pour le maintien du gym, ça il faut le souligner aussi. Pour m'accompagner ce soir dans Cope et Glon, Nico Nanino sur Twitter, sur X maintenant, on est très heureux de l'avoir. Salut Nico.
Salut, bonsoir à tous. C'est la première fois où c'était compliqué de venir, tellement je suis écœuré par ce qu'on a vu hier soir.
Même après les 5-1 dans le derby face à Marseille, il y a eu 4-0 contre Rennes, 4-0 contre le Paris Saint-Germain.
Je crois que c'est la goutte d'eau là qui fait déborder le vase, je vite que ça se termine.
Sébastien Réglet est avec nous également, journaliste ici à Azur. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. C'est pareil, un peu dégoûté. Il faut que ça arrive maintenant, qu'on soit barragiste à l'avant-dernière journée. Là, on est un peu dépité, je crois.
C'est le scénario que l'on redoutait, hein, finalement, dans les émissions qui ont précédé celle-ci de Cope et Glon. Et puis Guy, supporter de l'OGC Nice, correspondant également pour Nice Matin. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous. Moi, je suis venu en sifflotant, contrairement à Nico, parce que ma longue expérience de supporter fait que j'ai l'habitude de ce genre de situation avec l'OGC Nice, donc j'ai pas eu trop de problèmes.
Pas surpris, Guy, non, de ce qui s'est passé. Très bon match, d'ailleurs, diffusé sur Auxerre TV, on en a parlé juste avant, hein, ouais. Avec des commentaires qui étaient douteux.
Avec des commentateurs nationalisés bourguignons.
Absolument.
Match.
Au sommaire de cette émission, on va revenir évidemment sur cette confrontation entre Auxerre et Nice en première partie, et puis la deuxième consacrée d'abord au top flop. Je ne vais pas vous mentir qu'il y a plus de flops que de tops, ça vous l'avez deviné. Et puis le focus qui sera consacré évidemment au match de dimanche 21h. L'OGC Nice qui reçoit le FC Metz pour les 90 dernières minutes du championnat. Vous l'aurez compris, victoire pas obligatoire, ça dépendra de Lille Auxerre, mais vivement conseillé face à la lanterne rouge de Ligue 1 aux 3 victoires et 76 buts encaissés cette saison. Problème, le gym n'a plus gagné à l'Allianz Riviera depuis le 28 octobre dernier. En face, les Lorrains attendent un succès depuis le 9 novembre. Depuis, je vous le donne en mille, depuis le match aller face à l'OGC Nice, y a-t-il des raisons de craindre ce Nice-Metz ou finalement ce match a des allures de simple formalité? Élément de réponse avec mes experts en plateau pour ce 36e épisode de cette 5e saison de Cope et Glon. C'est parti. Nous, on va prendre la direction de l'Abbé Deschamps pour voir ce qui s'est passé entre Auxerre et Nice. Les images de cette 33e journée de championnat. Tout avait pourtant bien commencé pour le gym. Mohamed Ali Chou bute sur le replacement défensif de Brian Okoh. Mais Sofiane Diop a bien suivi. À ce moment-là, l'OGC Nice est virtuellement en Ligue 1 la saison prochaine. Mais le gym s'arrête de jouer. Sekou Mara va égaliser sur une relance à ne montrer dans aucune école de foot, signé Antoine Mendy. En deuxième mi-temps, l'illusion du but finalement en jeu de Djoumaba. 3 minutes plus tard, celui-ci est bien valide. La Cincinnati Yoko peut remercier Yevan Diouf et sa main savonneuse pour le but du 2-1 au Serrois. En fin de match, Isaac Janssen croit égaliser, mais Clément Akpa préserve sur sa ligne les 3 points bourguignons. Il y aura un autre sauvetage de Gédéon Mensah sur une dernière tentative. Deli Wahi au bout du temps additionnel. On peut enlever les images. On revoit les buts de cette rencontre. Messieurs, d'abord, je me tourne vers vous, vers les supporters du gym. Quand on est supporter, c'est quoi le sentiment qui domine à 90 minutes de la fin du championnat et cette position de 16e au classement, Guy ?
C'est de la peine, en fait. Pour les supporters, c'est de la peine, c'est la frustration, c'est de la colère, parce qu'on a des joueurs qui ont un potentiel qui n'expriment plus. Est-ce qu'ils l'ont exprimé une seule fois ? On en doute un peu. Est-ce que ce sont les épisodes qui ont agité le cours de la vie du club, qui ont créé cette ambiance? On ne sait pas. On ne sait pas du tout d'où vient le mal. On en parlait hors plateau. Et le mal est apparu à un certain moment. Et depuis, c'est un calvaire qu'on n'arrive pas à arrêter.
Et le mal est profond.
Et le mal est profond.
Nico.
Là, je ne sais même plus par où commencer, en fait. Tu fais le plus dur. Tu fais l'entame parfaite à ce moment-là de la saison sur un match aussi compliqué. Moi, j'attendais pas le gym capable de sortir une telle entame de match. Tu la concrétises enfin par un but. Les Auxerrois sont en train de douter. Ils ont la tête sous l'eau et toi tu les remets dans le match tout seul parce que tu décides d'arrêter de jouer, d'arrêter de gagner tes duels, t'es plus au second ballon. À partir du moment où ils ont mis deux joueurs sur Jonathan Clauss, c'était terminé. Il n'y avait aucune autre alternative pour l'OGC Nice, pour produire du jeu, pour être dangereux. Et puis derrière, le doute s'installe et puis tu fais des cadeaux parce qu'au final, ils mettent deux buts sur deux cadeaux qu'on leur offre. Parce qu'à part ça, ils ne sont pas très dangereux non plus parce que ce n'est pas flamboyant. Mais ils ont mis en tout cas plus d'ingrédients que nous dans un match pour le maintien. Et là où tout le monde est plutôt optimiste pour la semaine prochaine, enfin pour dimanche, moi je ne le suis pas du tout.
L'OGC Nice s'est liquéfié effectivement. Il n'y a pas eu beaucoup d'explications données hier, plutôt des constatations. Je vous propose de regarder celle de Morgan Sanson. On va voir sa déclaration à l'issue de la rencontre. On a fait 20 bonnes minutes et puis derrière il n'y a plus rien eu. Il y a eu beaucoup de frustration, si on peut voir la citation de Morgan Sanson. Il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de colère contre nous-mêmes. C'est vrai Sébastien, on a vu une équipe qui en voulait plus hier. Et cette équipe, c'était la GIA.
Ouais, exactement. Et là, on voit la citation de Morgan Sanson. Mais Jonathan Clauss s'est posé les mêmes questions. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on... Il ne comprenait pas. Il ne comprend pas pourquoi les joueurs s'arrêtent à la fin, au bout de 20 minutes, comme ça. J'ai vu que ça coïncidait avec le moment où il s'est mis à tomber des... Enfin, vraiment, il y a des trombes d'eau sur la baie des Champs. Enfin, les deux clubs étaient concernés par ça. Mais c'est à ce moment-là que Nice a reculé. Il n'y a pas d'explication, en réalité, de pourquoi Nice, encore une fois, fait marche arrière. Il marque pour la première fois dans un match. C'est rare qu'il marque les premiers. Et puis, finalement, ça ne fonctionne pas. Moi aussi, je commence à m'inquiéter aussi pour Metz. Je me dis, on en parlait un peu hors plateau. On se disait, bon, bah, Metz, ça reste Metz, c'est facile et tout. Mais... On l'a dit tout à l'heure, Metz, c'est la première équipe c'est l'équipe qui a battu Nice au match aller. Ouais. Donc ça, déjà, c'est d'un point de vue psychologique, ça peut jouer. Metz n'a plus rien à jouer, donc Metz peut venir totalement libéré avant de faire les valises pour les vacances. Et puis, je crois qu'ils l'ont montré hier, je crois que les Niçois, entre d'un côté, on n'en a plus rien à faire, mais d'un côté aussi un peu le stress quand même, malgré tout, j'ose espérer, ils ont montré hier qu'ils peuvent encore stresser contre Metz, et ça peut être très dur à domicile, surtout qu'on ne gagne jamais à domicile.
C'est intéressant ce que dit Sébastien. Vous avez senti, vous, de la peur ou plutôt de la nonchalance d'avoir marqué, voilà, on ferme la boutique, ça va passer comme ça. C'est quelle sensation vous percevez?
En fait, on a tellement peu mené au score cette saison qu'ils ne savaient pas quelle attitude adopter, je pense. Mmh. Déjà, moi, j'étais surpris de voir Auxerre nous laisser le ballon sur le premier quart d'heure, parce qu'on a plutôt eu le ballon. Après, ça s'est inversé. Donc, je pense qu'on ne savait pas trop comment gérer. Est-ce qu'on devait les attendre? Est-ce qu'on devait continuer à aller les chercher un peu plus haut? Et en fait, on s'est perdu tout seul. Le coaching, on en parlera peut-être plus tard de Claude Puel, que ce soit au départ ou en cours de match, il est illisible et il n'a pas aidé non plus les joueurs sur le terrain. Mais il y a des attitudes qui sont juste inacceptables, qu'on avait perdu, je trouve, depuis quelques matchs. Et là, on retrouve cette fébrilité. Franchement, c'est très très inquiétant. Là.
Et on n'oublie pas de dire juste qu'Auxerre, c'est faible. Vraiment, Auxerre, c'est quand même pas une énorme. On est loin d'être d'une grosse équipe en face.
Enfin, met les bases pour un match dans le maintien.
Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est qu'ensuite, après, il va y avoir Metz, ça va être un peu le même type d'équipe en fait. Mm-hmm. Mais Auxerre, c'est vraiment une équipe qu'il aurait fallu tenir pendant 90 minutes hier. On se devait de le faire.
Guy, avec l'état d'esprit affiché contre des adversaires comme Lille, comme Marseille, comme Lens, comme Strasbourg, la cohésion aussi affichée, on voyait difficilement le gym retomber dans ses travers et ça a été le cas finalement hier soir.
Ah bah oui, moi je n'aurais jamais pensé qu'il pouvait prendre un point à Lille, qu'il puisse prendre également un point à Marseille. Et là, je vais retomber. Mais au-delà d'une certaine fébrilité, je crois que c'est peut-être un sentiment de suffisance qui les habite, les joueurs. Ils se pensent au-dessus, notamment d'une équipe comme Auxerre. Ils se pensent supérieurs à cette équipe-là. Et tu parlais d'une grosse équipe. Moi, je parle surtout d'une grosse envie. Ce sont ils étaient déchaînés, quoi, les Auxerreurs. Ils ont un but à atteindre. Et ils se donnent tous les moyens. Ils ont mis leur trip sur le terrain. Et j'ai regardé à nouveau le match cet après-midi en replay. Et j'ai vu notamment que les Niçois ont perdu un nombre incalculable de ballons qu'ils avaient dans les pieds. Parce qu'ils ont été pressés. Alors, soit ça déclenchait un coup franc, mais dans tous les cas, ça arrêtait l'action. Soit les Auxerrois récupéraient la balle et repartaient à l'attaque. Et ça, c'est une forme de suffisance et de manque d'agressivité, quoi.
Et qui sait ce qui se passe dans la tête de Claude Puel actuellement, l'entraîneur de l'OGC Nice, qui était en conférence de presse d'après-match. On va l'écouter.
On s'est mis en difficulté pour moi parce qu'on a laissé le jeu, parce que simplement on a arrêté de jouer. À partir de là, ils ont pris un ascendant et on a eu beaucoup de mal à inverser cette tendance. On a joué notre va-tout, bien sûr, dans les 20 dernières minutes. en faisant rentrer des éléments offensifs, même si on était en déséquilibre, même s'ils ont eu une autre situation. Mais je pense qu'ils ont été plus présents dans l'intensité, dans les duels, dans l'engagement.
Mais c'est ce que disait Guy en toute fin. On a entendu, on a laissé le jeu, on a arrêté de jouer. C'est vrai que c'est la vérité. Mais ça sonne un petit peu comme un aveu de faiblesse, Nico, quand on a le passé, le vécu d'un coach comme Claude Puel.
Mais combien de fois on l'a entendu cette saison, ça? On n'a pas mis les ingrédients, on a manqué d'envie. Enfin, c'est inacceptable de manquer d'envie dans un match comme ça, dans une telle situation. Il y a des gens qui sont menacés par le chômage si on descend en Ligue 2. Non, on manque d'envie, on manque... Enfin, c'est quand même... Mais c'est scandaleux que personne ait cette prise de conscience. Alors après, on pourra parler aussi des choix qu'il fait en cours de match. Parce que il y a une chose.
Vous voulez voir la composition de l'équipe? On demande à Manon Aversa de mettre la composition.
Ça fait mal aux yeux,
tout de suite. Claude Puel qui avait décidé de revenir en 3-5-2. Il a enregistré le retour de Jonathan Clauss qui reprenait son couloir droit. Abdoul Samed venait densifier l'entrejeu devant du classique en l'absence d'Eli Wahi avec le duo d'attaque Sofiane Diop, Mohamed Alichaud.
La compo parle d'elle-même. Tu vas à Auxerre, ils ont dit en conférence de presse on y va pour gagner. Tu peux pas gagner avec cette composition de l'équipe contre Auxerre, c'est pas possible. Déjà, le message envoyé, c'est. On vient, on met bloc bas comme contre Lille, Marseille et Lens, et on espère en phase de transition aller marquer un but. Donc à la limite, tu veux conserver cette ossature défensive qui t'a fait du bien sur ces derniers matchs, soit. Mais en cours de match, il a souvent eu le courage de changer Claude Puel sur son second passage ici. Là, c'est pas le cas. Là, quand il fait rentrer un Tom Louchet, quand il fait rentrer un Kevin Carlos et qu'il laisse des joueurs. Je suis désolé de parler de Kyle Boudache, mais c'est le seul joueur qui est capable de faire des différences. Il ne le fait même pas rentrer. Il doit changer de système. Il doit jouer avec trois joueurs offensifs. Morgan Sanson, il joue sous assistance respiratoire depuis 2 mois. Il joue tous les matchs et il est capitaine. Abdoul Samed, il n'a pas réussi une passe ou un crochet vers l'avant. Enfin, à un moment donné, vous ne pouvez pas produire ne serait-ce qu'un tout petit peu de jeu avec cette équipe-là. C'est impossible.
Il y a un discours contradictoire entre le fait de dire avant le match on vient pour ne pas perdre et puis montrer une composition d'équipe qui montre qu'ils sont venus pour ne pas perdre. Ils ne sont jamais venus pour gagner, sur le papier en tout cas. Comme tu le disais, on est venu pour le message envoyé aux joueurs. Déjà, le message qui a dû être envoyé aux joueurs, c'est derrière on bétonne quoi. C'est ce qu'on voit sur la feuille de match.
Il travaille quoi là, l'entraînement? Il y a une seule phase de jeu, c'est on va chercher Clauss. Il va nous sortir une passe de son pied droit magique et on a que ça en stock. Parce que c'est ce qui s'est passé sur le but, c'est ce qui s'est passé sur une autre situation juste après le but. Et à partir du moment où, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont réussi à cadenasser Jonathan Clauss, il ne s'est plus rien passé du match côté niçois. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème dans la production du jeu.
Vous le placez où le degré de responsabilité de Claude Puel sur ce match, Guy? Le fait aussi que la seconde mi-temps n'ait pas apporté l'électrochoc escompté, c'est évocateur également.
Oui, on aurait pu penser qu'avec l'expérience de Puel, il aurait réussi à sortir une composition magique qui aurait un peu dynamisé l'équipe. Mais je pense qu'il a... Contre le manque d'envie, c'est difficile de mettre en place quel que soit le schéma tactique. Je pense que c'est se battre contre des moulins, quoi. Il a pas les armes pour réveiller les consciences.
Mais ça se voit quand même, je trouve, hier soir, il avait l'air particulièrement marqué après le match. On a l'impression qu'il est démuni, Claude Puel.
Ouais, c'est ça.
On a vraiment l'impression qu'il est là, mais il se dit, mais qu'est-ce que je fais là, presque.
Mais il est dépassé. Enfin, moi, ça me fait mal de le dire, parce que j'ai un profond respect et une grande admiration pour lui. Il a fait énormément de bien, mais 2 victoires en 20 matchs.
Ouais.
Et on se demande même ce qu'il fait là, parce que je pense qu'il est à l'abri du besoin. Il est juste venu par amour pour le club et par
amitié.
Oui,
ça part pas d'une mauvaise intention,
non,
évidemment.
Envers les dirigeants du club, parce qu'il a eu une belle expérience auparavant. Mais je me demande ce qu'il fout dans cette galère, quoi. Il pourrait être tranquillement à la Turbie ou vers là où il habite et être s'occuper d'autre chose.
Et on dit ça, et encore d'ici 10 jours, 12 jours, 11 jours, je crois maintenant, on pourrait dire le contraire. Ça se trouve, finalement, il va réussir sa mission. Parce que, comme tu l'as dit, on va recevoir Metz et... Sur le papier, quand même, ça doit pouvoir le faire. Il aura réussi sa mission, mais il aura bien galéré pendant quelques mois.
Ah oui. Ce match aussi, Seb, c'est le révélateur de la saison. En cas de victoire, l'OGC Nice aurait validé son maintien directement face à son principal concurrent. Ce serait quasiment symbolique. Et cette rencontre, elle nous fait dire finalement que la GIA mérite plus son maintien que l'OGC Nice, quel que soit finalement le résultat la semaine prochaine.
Bah, en tout cas... Quand on voit la mentalité de l'équipe auxerrois sur le match d'hier, oui, clairement, on peut se dire qu'il y en a une qui mérite plus que l'autre. La GIA Auxerre, aujourd'hui, c'est une équipe qui est peut-être aussi conditionnée pour ce classement-là et peut-être prête à aller au combat quand on est en difficulté. J'ai l'impression que Nice n'est pas faite, cette équipe-là, pour jouer ce genre de place.
À cause du sentiment de supériorité, Je pense que dont je parlais tout à l'heure.
Puis le gym a eu un problème cette saison, toujours répondre présent dans les grands rendez-vous. Elle est mieux en tant qu'outsider, cette équipe, depuis le début de la saison, Nico.
Ça dépend, t'en as quand même pris 5 contre Marseille, 4 contre Rennes.
Mais là, dernièrement, 4 contre Paris. On les attendait pas.
Oui, c'est vrai que sur cet enchaînement de 3 matchs, on a été costaud, il faut le dire. Et d'ailleurs, on l'a dit. Hein, franchement, ouais. On peut nous dire qu'on critique, mais quand c'est bien, on le dit aussi. Mais justement, là, on les attendait aussi au tournant. Est-ce que c'est pas plus facile dans un gros match aussi d'élever le curseur, et quand on retombe contre une équipe un peu plus modeste, avec tout le respect qu'on a pour Auxerre, et ben, quand il faut mettre les mêmes ingrédients, ben, y a plus grand monde.
Très vite, une info à vous donner hors de cet Auxerre Nice. Grégory Lorenzi, qui devait devenir le prochain directeur sportif de l'OGC Nice la saison prochaine, aurait trouvé un accord avec l'Olympique de Marseille. Une information Foot Mercato qui nous apprend que c'est avant tout la dimension et l'ambition du projet olympien qui aurait fait la différence. Ça nous évoque quoi, ça, Nico?
Ouais, il faut voir déjà quelles étaient les discussions avec Nice. Si effectivement il a donné sa parole, c'est pas une grande perte, parce qu'un homme qui revient sur sa parole, ben, on en a pas besoin, en tout cas à Nice. Après, on peut comprendre aussi que le projet peut-être de Marseille est plus excitant pour un homme, parce que même Marseille dans un chaos, je peux comprendre que ça reste excitant pour lui. Mais bon, voilà, moi je rêve d'un retour de Mathieu Bodmer.
Ça vous fait rire, hein?
Oui, ça me fait rire, parce que je trouve que ce monsieur, il a choisi deux galères. Il avait le choix entre deux galères, il en a choisi une quand même.
Il veut se rapprocher de la Corse aussi, Grégory Lorenzi. Ouais, hein. Il va avoir du travail, en tout cas, dans la pétaudière marseillaise. On en est sur l'OGC Nice qui reçoit le FC Metz pour les 90 dernières minutes du championnat. On en parle tout de suite après la pub. Très très courte, vous allez voir, dans la deuxième partie de Cop & Glo. Tout de suite. De retour sur bateau de Cop & Glo pour évoquer cette défaite de 2-1 du côté de l'Abbé Deschamps à Auxerre. Il est temps de distribuer les bons, les mauvais points de cette rencontre tout de suite dans les top flops. C'est parti. Nico, on commence avec vous et avec Jonathan Clauss en top. C'est un petit top.
De base, je voulais mettre les supporters parce qu'il y en a encore 300 qui se sont farcis, je crois, 8 ou 12 heures de quart. Avec les galères qu'ils ont pu connaître. Et ils ont donné de l'avant, on les a entendus. Donc, encore une fois, respect à eux. Je sais qu'ils seront encore présents dimanche contre Metz. Il n'y a pas beaucoup de clubs en France, je pense, qui peuvent se
targuer d'avoir,
voilà, d'avoir de tels supporters dans de telles situations. Et puis, sur le terrain, Jonathan Clauss, parce que c'est le seul joueur, encore une fois, on l'a suffisamment dit, au niveau. Il a un super pied. En plus, il ne triche pas. Donc. Voilà, il tire tout le monde vers le haut malgré que le reste ne suive pas.
On peut entendre Guy aussi, puisque c'est le top de Guy.
Oui, c'était le mien aussi, parce que c'est vrai qu'il apporte toujours une touche de classe sur son côté droit et qui provoque des occasions. Il permet d'avoir des occasions, quoi. Même si les attaquants ne les transforment pas, ça lui fait mériter un top.
Et puis le retour du flop, Salis Abdoul-Samed, quelques mois après, vous le mettiez tout le temps en flop. À un moment, là, vers janvier-février, là c'est reparti, Nico.
Je crois que c'est la performance d'un milieu de terrain la plus faible que j'ai vue depuis très 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 longtemps à Nice. Il a absolument rien réussi, il a erré sur le terrain. Techniquement, c'est d'une faiblesse abyssale. Il a perdu un nombre de ballons incalculable. Et le pire, c'est qu'il a perdu ses ballons en essayant de se rassurer, en jouant simple. C'est pas comme s'il perdait des ballons en jouant vers l'avant, en cassant des lignes, c'est qu'il essaye de contrôler, de vite retourner vers Diouf ou Mendy ou Ba ou Opong, et il perd quand même les ballons parce que bah, il est nul. Non, mais il faut dire ce qu'il est, donc j'aimerais bien savoir ce qu'a fait Charles Van Hout aussi pour plus jouer, parce que je suis pas en train de dire que c'est Busquets, mais bon, c'est quand même plus fiable techniquement que Abdoul-Samed. Tu savais que contre Auxerre, t'allais avoir un peu plus les ballons, un peu plus des possibilités de créer du jeu, et il met quand même Abdoul-Samed qui a un profil vraiment de travailleur de l'ombre. Donc encore une fois, très étonné de son choix.
C'est lui qui avait joué, hein, titulaire, avait, plusieurs matchs.
Il avait été
matchs,
plutôt bon dans un rôle très différent, dit, hein. Très discret, il faut courir. Il touchait très peu de ballons, mais il couvrait des espaces. Et dans ce rôle-là, il est très bon. Mais contre Auxerre, où tu vas être un peu plus exposé avec ballon, je pense pas que c'était le bon choix.
Et quand je t'entends, là, je me dis, le flop, ça aurait pu être Puel, hein.
C'est ce que j'avais dit à Sam, il m'a dit 30 joueurs.
On a l'impression de mettre des joueurs, c'est
bon. Ouais, c'est vrai que c'est la règle. Bon, mais Frec, il aurait pu. Ses décisions dans ce match-là, notamment ce match-là, c'est étonnant.
Sébastien, un top qui va faire réagir le plateau.
C'était le but.
C'était le but. Voilà. Et surtout Guy, parce qu'il m'a adressé les louanges d'un joueur en particulier, c'est Mohamed Alichaud.
Non, en fait, c'est-à-dire pendant 5 minutes, je me suis dit waouh, ça démarre bien le match. Vraiment, si je devais vraiment mettre un top. Je vais donc regarder les premières minutes jusqu'au but. Et je trouve que Mohamed Alichaud, Voilà, il m'a fait m'enflammer une fois ou deux, mais voilà, ça m'a, il m'a pas fait rêver non plus.
Dans la,
pas
la, saison, dans la saison complète.
Ah oui, dans la saison complète, on parlait de... Ah, on parlait hier. Non, je sais bien. J'ai dit Mohamed Ali Chou, parce que je savais que tout le monde allait mettre Jonathan Clauss, évidemment. Mais plus qu'il allait amener le but malgré tout, même si à l'arrivée, c'était pas, il ne voulait pas servir directement Diop, mais vu que c'est une frappe ratée qui est détournée. Mais voilà, j'ai voulu mettre Mohamed Ali Chou, même si c'est peut-être pas le meilleur... C'était pour changer un peu. Voilà.
Ouais. Et puis on va ouvrir le grand dossier de ce soir en flop, hein, parce que c'est le flop aussi de Guy. Mmh. Forcément, on ne pouvait pas passer à côté. C'est Yevan Diouf. Deux boulettes consécutives en deux matchs,
c'est bon. C'est un rôle ingrat, le rôle de gardien. Alors forcément, on tombe sur le gardien quand ça ne va pas. Là, malheureusement, c'est une faute de débutant, notamment le deuxième but, cette frappe-là qui. Il ne peut pas se rater sur une action comme ça. Il peut pas. C'est une occasion importantissime dans une saison. Et là, malheureusement, il est passé complètement à côté. Je pense qu'il est... il y a le stress qui est là, mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, c'est une faute qui n'est pas pardonnable, j'ai envie de dire, à ce niveau-là.
Ce sont des points qu'il a fait perdre aussi au Stade de Reims l'année dernière. Et voilà. Malheureusement, les deux parcours, on le voit, se rejoignent par rapport à l'année dernière avec la finale de Coupe de France. Guy, sur Yevan Diouf, il faut quand même le dire, ça fait la deuxième erreur grossière qui coûte vraiment des points à l'OGC.
Mais celle de dimanche soir, elle est particulièrement... pénible à supporter, hein, parce que prendre le deuxième but comme ça, c'est incroyable. Et lorsqu'on a acheté ce gardien, on disait, il a fait une saison démente avec Reims, parce que toute la saison, il a été bombardé. Donc, voilà. il a eu
le plus haut pourcentage d'arrêt de la saison dernière. Mais pourquoi? Parce qu'aussi, il s'est exposé énormément.
Et si je peux juste revenir sur Mohamed Ali Chou.
Oui.
Mohamed Ali Chou, c'est une Tesla, mais avec 30 km d'autonomie. C'est-à-dire que c'est magnifique, mais ça dure pas jamais.
Alors que Kevin Carlos, même à 0 km, ça marche pas.
Ah, lui, c'est un buffet. C'est pour ça l'a mangé, c'est pas pour le football.
Il y a un joueur qu'on aurait pu mettre en flop aussi, c'est Sofiane Diop, pour plusieurs raisons. Ça fait 7 mois qu'il n'est pas décisif. Alors on va me dire, c'est sa célébration. Mais il n'a rien d'autre en tête que d'aller faire un chute devant le parcage à ce moment-là de la saison. Tu marques un but qui est censé être salvateur et fédérateur. Et toi, tu vas faire cette célébration à deux balles devant le parcage.
Surtout
sous la pluie.
Son niveau de jeu.
Non, mais c'est surtout qu'à la limite, si tu décides de célébrer comme ça, parce que soi-disant c'est ta célébration, je ne sais pas ce qu'il veut prouver d'ailleurs en faisant ça. Mais derrière, il faut répondre présent le reste du match. Et il a été fantomatique après le but. Ouais. Il s'est caché, il a arrêté le pressing. Donc en fait, ce joueur-là symbolise tous les maux de l'OGC Nice aujourd'hui. Et dire que c'est le plus gros salaire, c'est un scandale absolu pour moi, sa célébration.
Oui, c'est symbolique, hein, cette célébration de Sofiane Diop. Nico, on reste avec vous pour Yevan Diouf, un dernier mot, puisqu'il a été acheté l'année dernière, jusqu'en 2030. Ça aussi, ça a été une intuition extraordinaire de Florent Maurice, un des nombreux chantiers qu'il a mené avec une grande clairvoyance, évidemment. On se dit, c'est là, dans ces moments-là, on se dit qu'il va falloir vraiment un vrai numéro 2 à côté de lui pour qu'il y ait une concurrence et pour que... forcément, les niveaux, il y a des niveaux qui s'égalisent.
Pourquoi pas un numéro 1 aussi, pourquoi pas un départ pour cet été. Franchement, moi, je serais d'avis à me séparer de la majorité de l'effectif parce qu'il y a des traumatismes trop présents dans cette équipe.
Et si tu te sépares, il faut que tu trouves des joueurs qui veulent venir derrière en échange.
Après, je pense que si Nice reste en Ligue 1, il y a le bonheur de gagner la Coupe de France. Avec un nouveau projet, tu resteras attractif parce que une saison ratée ne va pas effacer les autres réussies. Et Nice, je pense, reste une place forte du foot français et tu as des arguments quand même.
Non, mais juste aussi, le manque d'horizon du club fait qu'il y a plein de questions qui se posent pour ceux qui sont là, ceux qui pourraient venir. Mais comme on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait au niveau du club, ça va être compliqué. Hein.
Messieurs, il nous reste 5 minutes, on est dans le temps additionnel de cette émission. Vous le savez, c'est l'heure du focus. On y va. Focus consacré à ce Nice-Metz, vous l'aurez compris comme annoncé en début d'émission. Y a-t-il des raisons de craindre cette rencontre ou pensez-vous que c'est une simple formalité? Seb,
ça me fait peur. Quand même, ça me fait peur.
Il faut craindre.
Il faut craindre. En deux mots,
juste fait un tour de table et après on.
Il faut craindre.
Il faut craindre. Ouais. Nico,
très inquiet.
Guy,
ça va aller.
Ça va aller. Comment c'est avec vous? Ça vous est chaud sur ce sujet?
Ouais, je pense qu'il faut craindre tout simplement parce que Nice n'a pas gagné depuis, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 2025 à domicile. Donc c'est quand même pas rien. Metz a gagné au match aller. Metz n'a plus rien à jouer. Metz est en vacances et Nice est en plein doute, mélange de doute et mélange de je m'en foutisme. Donc ouais, je pense qu'il faut craindre, surtout que ils doivent se dire aussi il y a la Coupe de France, donc il faut vraiment qu'on gagne pour être à fond pour la Coupe de France derrière. Bref, tout est réuni pour avoir peur. Voilà.
Guy, pour contrebalancer. Après, on écoutera Nico juste après.
Moi, je pense que le scénario de voir Auxerre gagner à Lille, alors que Lille joue la troisième place pour la Ligue des Champions, et de voir Nice ne pas arriver à battre Metz dans un match capital pour le club, c'est impossible à imaginer. Donc je suis relativement serein.
Impossible n'est pas niçois, ça fait
c'est dans l'ADN du club.
Ça fait des mois qu'on se dit qu'on a des cartouches d'avance, on avait 9 points après le match contre Nantes ou après Angers, je sais plus, on se disait mais quand même on a de la marge. Au final la 34e journée t'es barragiste, t'as plus ton destin entre les pieds parce que même si t'as le bonheur de gagner contre Metz, t'es pas à l'abri que le Havre fasse un résultat à Lorient qui n'a plus rien à jouer et que Auxerre aille gagner à Lille qui est spécialiste en fin de saison des matchs ratés pour les qualifications européennes, qui a fait match nul contre le Havre et contre Nice à domicile. Et moi, surtout, je ne vois pas cette équipe de Nice aller battre si facilement le FC Metz, qui va avoir envie de ne pas écrire un triste record en Ligue 1.
Les joueurs de l'OGC Nice qui ne pourront pas dire, en tout cas, qu'ils ne savaient pas. Écoutez Claude Puel à l'issue de la rencontre à Auxerre.
J'ai déjà prévenu les joueurs. Metz n'a plus rien à jouer, bien sûr. Simplement à jouer libéré. Des joueurs qui veulent se montrer, qui ont plus de pression pour exercer leur métier. Et Metz, sur tous les derniers matchs, a été bien présent.
Ce qui se joue.
Le FC Metz qui traverse quand même une très mauvaise passe. On va voir le chiffre du soir dans Copéglon. C'est 4, le nombre de points pris par les Lorrains sur la phase retour. Alors attention quand même, contre Lille, contre Rennes, contre Nantes et au Havre, au Stade Océane, 4-4, il y a de cela 3 journées. Ça aurait pu faire 5 aussi face à Monaco la semaine dernière. Ils ont concédé une match nul dans le temps additionnel. On va pas parler aussi de la série de Benoît Thévenot qui est complètement folle. Hein. Il n'a pas gagné de l'année entre Bastia et Metz, l'entraîneur des Lorrains. On rappelle aussi que le gym, même en 4 victoires, pourrait disputer ce barrage de Ligue 2 qui devrait se dérouler les 26 mai et les 29 mai si le gym y participe. Pourquoi ? Parce qu'on va voir le classement tout de suite, là, la deuxième partie. Parce qu'Auxerre et Le Havre ont leur destin entre leurs mains. Ils seront maintenu s'il l'emporte dimanche. Tout autre résultat laisserait l'OGC Nice dans la course. L'occasion aussi pour nous de faire un point calendrier spécial course au maintien. Voilà, vous le voyez, l'OGC Nice qui est 16e à égalité de points avec Auxerre, avec une différence de but très négative par rapport au Bourguignon et à une seule unité du Havre. On va voir le calendrier tout de suite des deux équipes qui nous intéressent, des trois équipes qui nous intéressent avec Nice, Le Havre et Auxerre, avec la GIA qui se déplace à Lille, troisième sous la menace de Lyon à 1 point et de Rennes à 2 unités. Les Nordistes qui pourraient passer directement de la phase principale de Ligue des Champions à celle d'Europa League. Et puis Le Havre est également en déplacement à Lorient. Les Merlus qui n'ont plus rien à jouer, si ce n'est une place d'honneur, le 8e rang en cas de défaite de Strasbourg. Question à tous les trois, quel scénario vous privilégiez sur les autres pelouses qui nous intéressent dimanche soir? Petit tour de table, Seb.
Une des deux équipes va perdre à l'extérieur, ce qui va sauver Nice, je pense.
Plutôt Seb.
Ouais, je pense quand même, mais moi je disais que j'étais inquiet sur le match en lui-même entre face à Metz, ouais. Mais je pense que les autres équipes, il y en a une des deux qui va se trouver.
Nico?
Moi j'ai plus peur pour Le Havre que pour Auxerre.
D'accord, à Lorient.
Auxerre, aller chercher un résultat à Lille.
Même s'il y a des relations tendues entre Pantalone, enfin Laurent Abergel, le capitaine du FC Lorient, a poussé un gros coup de gueule sur l'éviction de Pantalone au mercato, mercato estival, puisqu'il va partir, c'est l'entraîneur corse des Bretons. Guy ?
Moi, j'espère que la logique sera respectée et que Lille batte Auxerre et que Nice batte Metz. Après, il y a une solution de coaching. Claude Puel pourrait très bien dire à ses joueurs, si vous jouez, ceux qui se montreront sérieux contre Metz joueront la finale, ceux qui par contre passeront à travers ce match capital pour le club ne joueront pas la finale, parce qu'une finale dans une carrière, à mon avis, c'est quand même quelque chose d'important.
On ne peut pas imaginer qu'ils ne leur disent pas, d'ailleurs, ça paraît évident, c'est une très bonne remarque, mais c'est évident qu'il doit le dire, ouais. Clairement, ce genre de choses.
Ouais, mais bon.
Et ce sera le dernier mot, messieurs de Copéglon, 19h29. Merci beaucoup de m'avoir accompagné ce soir dans cet épisode de la mort, quasiment. Espérons que le gym soit maintenu la semaine prochaine, directement avec cette victoire face à Metz. D'ici là, passez une très très bonne semaine, à la semaine prochaine dans Copéglon.